quoi quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Assalamu alaikum, shalom. Bonjour, Indinami Katan. Nous sommes le vendredi 15 septembre 2023 et nous sommes heureux de nous retrouver dans ce studio pour nous accompagner mutuellement durant le club de la presse jusqu'à 12h25. Et nous, c'est à la technique et tech aussi d'Atevi Thomas avec Jiro Dakucha qui réalise l'émission, la met en ligne et même sur le virtuel à l'endroit des internautes qui nous reçoivent de par le monde entier. Et nous vous saluons, vous tous et vous toutes, auditeurs et auditrices du club La Presse, que ce soit sur les antennes de Canal FM, de Radio Lumière à Nero, de Radio La Paix à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baga Niamtougou, Radio Daoula Bassa au Courtoisie à Dapan, ou encore vous qui, par différentes applications, même par la chaîne YouTube, vous nous recevez et nous voyez partout sur tous les points de la terre. Je suis entouré par trois mousquetaires. Je ne sais dans quel ordre les présenter, mais commençons par l'ordre d'arrivée. Francesco Bande Kossi Napokura de Tampa Express. Bonjour.
Oui, bonjour Sas Gao, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de la nouvelle génération. Rappelons-nous des mousquetaires, les trois mousquetaires, D'Artagnan, Aramis et
Porthos. Porthos,
voilà. Porthos et Athos.
Merci. Deuxième mousquetaire, il n'a pas de chapeau aujourd'hui, mais sa barbe est toujours bien fleurie, blanchâtre. Lui, c'est Godson Ketomagnan de Liberté. Bonjour.
Bonjour Sas. Bonjour, fidèle auditeur de Canal FM.
Et le troisième, mais pas le moindre, c'est Essohana Germain Pouli de Togo Réveil. Lui dont les auditeurs auditrices attendent qu'il parle fort dans le micro. Germain, bonjour.
Bonjour Sos, je souhaite que c'est fort.
Il faut garder le décibel jusqu'à la fin.
On va prier Dieu.
Merci. C'est vendredi, nous faisons le point de la semaine. Et ici au Togo, l'actualité, c'est sur le plan politique, le gouvernement recomposé dont les nouveaux ministres viennent de prendre possession de leur charge. Nous allons en parler. Et l'autre actualité qui dérive un peu, l'autre actualité, c'est les changements de régime en Afrique qui induisent des transitions démocratiques. Ce thème qui a fait l'objet de la rentrée diplomatique avec une déclaration liminaire présentée par l'ancien Premier ministre Joseph Kokou Kofigo. Et comme il n'y a pas de hasard, nous sommes au jeu de le 15 septembre. Et le 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie. Journée internationale de la démocratie, d'où nous tirons donc même la pensée du jour. Le thème dit ceci: le courage est mis à l'épreuve quand on est dans la minorité. La tolérance est mise à l'épreuve quand on est dans la majorité. Encore une fois, le courage est mis à l'épreuve quand on est dans la minorité et la tolérance est mise à l'épreuve quand on est dans la majorité. C'est le thème sous lequel la Journée internationale de la démocratie est célébrée aujourd'hui. Et nous en faisons notre pensée du jour. Et le troisième thème dont nous allons débattre, c'est les comportements que nous devons adopter face aux catastrophes naturelles. Depuis le 15 dernier, le Maroc a vécu un séisme avec des bilans terribles. Il y a également une tempête tropicale qui a déversé sur ses eaux, sur la Libye, avec des dégâts également incommensurables. Chez nous, toute proportion gardée, nous avons un accident de pirogue hier au port de la pêche et notre côte est toujours menacée par l'érosion côtière. Il y a quelques jours, le gouvernement conclut une convention avec un partenaire, l'AFD, pour protéger nos côtes. Voilà les trois sujets dont nous allons débattre. On peut démarrer, Godson, Sarana et Gbandé.
Oui.
Eh bien, si vous voulez, commençons par la journée internationale de la démocratie avec l'exposé qu'a présenté l'ancien Premier ministre Kwaku Kofigo lors de la rentrée diplomatique. Des journaux reviennent là-dessus aujourd'hui, dont l'Union qui écrit « Rentrée diplomatique, le fort engagement du Togo ». Kofigo qui a déclaré, je le reprends, « Les efforts de médiation et de facilitation à l'échelle du continent seront renforcés ». Plutôt une phrase prononcée par Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères. Autre journal, c'est le Canard indépendant qui tire sur le sujet « Maître Joseph Kofigo ». Fait l'autopsie des transitions démocratiques en Afrique, pendant que le télégramme du Togo, lui, écrit « Maître Kofigo, citation, pas toujours des occasions faciles où les espoirs deviennent des réalités ». Godson, journée internationale de la démocratie, le cas du Togo depuis la conférence nationale souveraine d'il y a déjà 32 ans, les péripéties que nous avons connues, toutes les élections présidentielles, législatives et locales passées avec ce qui vient à l'horizon et dans la sous-région, les changements auxquels nous avons assisté en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger et dernièrement au Gabon avec cet exposé présenté par Kwaku Kofigo.
Merci Sass. Journée internationale de la démocratie. J'avais dit il y a quelque temps sur cette chaîne que je continue à m'interroger sur ce qu'est cette démocratie dont on parle.
Dont nous parlons.
Je dis dont on parle parce que tout à l'heure vous citiez la rentrée diplomatique au cours de laquelle l'ancien Premier ministre a prononcé un discours. Personnellement, je me demande s'il a pu oser axer son discours sur le local.
Le Togo.
Le Togo, bien sûr. Il a été Premier ministre au Togo. Mais on est prompt à deviser quand il s'agit de l'autre, quand il s'agit de l'extérieur. Mais en interne, nous avons, avouons-le, mieux à faire. Parce que quand on parle de médiation, je rêve toujours, je ne sais pas si je vais m'éveiller un jour, je rêve de voir à la fin d'une élection dans mon pays, les acteurs reconnaître la clarté, la transparence du processus. Ça seul me contentera. Mais quant à s'égosiller sur ce qui se passe dans la sous-région, dans la région, cette démocratie-là, quand est-ce à la carte qu'on la distribue, quand c'est ce pays qu'on n'adoue pas trop, sa transition n'est pas cooptée. Mais quand c'est un autre, on ferme les yeux sur ce qu'il y a d'anormal. Mm-hmm. L'essence de la démocratie, selon moi, ce n'est pas ça. Et donc, quand on parle de journée internationale de la démocratie, il faut qu'on redéfinisse ce qu'est la démocratie dont on rebat les oreilles.
Merci beaucoup, Germain. Sorana, comme Godson le dit, nous allons domestiquer le débat. C'est vrai que le Togo est entré dans la démocratie déjà en 90-91, plus de 30 ans, 32 ans, avec toutes les élections que nous avons connues, hein, les contestations dans les rues, tout ça. Mais Dieu merci, le Togo n'a plus connu d'intervention intempestive, notamment des militaires sur la scène politique depuis 32 ans. Alors, la démocratie dont Godson demande qu'on lui définisse les termes, est-ce que tu es assez satisfait de ce parcours que nous connaissons depuis toutes ces années, Germain?
Le parcours du Togo?
Du Togo.
Oui, je pense qu'il y a eu un enfantement, un accouchement, j'allais dire, difficile de la démocratie togolaise après la conférence nationale. On a vu comment la transition a souffert et comment l'incompréhension même de la démocratie a amené les Togolais à s'entre-déchirer pendant longtemps. Et puis il y a eu ces 22 engagements qui ont été signés et puis après il y a eu surtout l'APG.
L'accord politique global signé le 20 août 2006.
Qui est venu mettre l'antidémocratie effectivement sur les rails avec les débuts des élections qu'on a jugées transparentes, celle d'octobre 2007, suivie donc de plusieurs autres jusqu'à celle de février 2020, la dernière fois. Donc je crois que à part de 2007 jusqu'à aujourd'hui, on peut se satisfaire quand même des efforts du Togo dans ce sens. Les efforts dans la transparence des élections, mais les efforts surtout dans l'organisation des élections, dans la paix. Hein, parce que dans plusieurs pays, y compris les pays voisins qu'on a dû les jadis, on voit beaucoup de violence autour des élections. Et le Togo a réussi cela, mais après la démocratie, ça reste une quête permanente. Aujourd'hui, les États-Unis, qu'on dit les champions, quand vous voyez comment ils organisent la prochaine élection, avec tout ce qu'on fait pour traquer...
J'avais souhaité que nous domestiquions le débat,
Germain. Non, tout à fait. Non, j'en venais pour dire que ça reste une quête permanente et que rien n'est acquis. La démocratie, la base, c'est déjà les libertés. Hein, ce que nous faisons ici depuis plusieurs années, c'est l'essence même de la démocratie, la liberté de parler, la liberté de se réunir en association, la liberté de s'épanouir, toutes les libertés. Et après, la liberté aussi de choisir ses dirigeants qui se manifestent donc dans les urnes. Et on ne peut que dire que des efforts ont été faits. Maintenant, au Togo, le vrai débat, ce n'est plus la démocratie. Mais c'est l'alternance. Alors les gens semblent dire que quand il n'y a pas alternance, il n'y a pas démocratie. Je crois que c'est tout le problème qu'il y a au Togo, parce que quand on juge le Togo, on ne le juge pas sur des violations des règles démocratiques, mais on le juge sur l'absence de l'alternance. Maintenant, à qui la faute? Est-ce que c'est le pouvoir qui est là, qui est trop puissant et qui fait barrage par tous les moyens à l'opposition de parvenir au pouvoir, ou c'est plutôt une opposition qui s'est affaiblie et mal organisée, qui n'arrive pas à faire l'alternance. Donc pour moi, c'est un peu ce débat qu'il faut faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas à un niveau de démocratie top, mais nous avons la moyenne en matière de démocratie.
Merci, Germain l'a dit, depuis 32 ans, Franco, nous avons la conscience de la 4e République. Du 14 octobre 1991, qui résiste aux péripéties du temps avec ces institutions. Mais le débat réel qui catalyse les ardeurs, c'est le régime en place qui avait été contesté dans les rues en 90-91. Mais c'est ce régime de Gnassingbé Yadema à Fort Gnassingbé qui gagne toutes les élections, aussi bien présidentielle, législative, que même locale, au point qu'on se demande, comme Germain le disait, si c'est le régime du RPTA uni qui est toujours plus fort et que c'est l'opposition plutôt qui se délite au jour le jour. Franco.
Bon, tout d'abord, j'ai quand même un petit bémol par rapport à la personnalité de Kofigo. Lui l'a dit tout à l'heure, Kofigo a géré un temps de la transition. Bien sûr qu'il fait partie de ce qui a organisé une des élections transparentes au Togo, c'est-à-dire plus ou moins transparentes, c'est-à-dire les élections législatives de, je crois,
94,
où même lui-même, on a dû annuler certains de ses, disons, candidats élus à l'intérieur du pays.
C'était un résultat dans son supposé fief avait été annulé à l'époque.
Voilà, c'était la véritable assemblée qu'on avait eue à partir d'une élection.
Mais législative.
Mais il ne nous a jamais fait le bilan de son passage comme écrit. On a envie d'un livre de Maître Joseph Kokou Kofigo, pas un poète, mais quelqu'un qui nous laisse vraiment ses expériences passer à la primature pendant la transition. Maintenant, quand on parle de démocratie, je crois qu'il y a un professeur d'université même qui a titré une démocrature. Parce que à l'issue d'une élection, on ne doit pas, en principe, si nous sommes en démocratie, on ne doit pas avoir des exiliés après des élections présidentielles. Je prends le cas de la dernière élection de 2020 où certains compatriotes, Mgr Podjo et Agbeyoum, sont obligés de rentrer dans leur champ de maïs. Et donc, on doit s'interroger. Et c'est le temps qui nous jugera, parce que aujourd'hui, on écoute partout quand des personnalités qui ont organisé des élections disent, par exemple, au Gabon, que voilà ce qu'on faisait pratiquement. Tous nos régimes sont les mêmes. Quand vous voyez les conditions de vie des Togolais, quand vous voyez le pays, tout ce que tout le monde décrit sur le territoire, on ne peut pas dire véritablement que c'est parce que les gens travaillent bien ou c'est parce qu'ils sont plus forts, mais certainement parce qu'ils ont tous les appareils dans leurs mains. C'est pourquoi peut-être ils gagnent. Mais le temps nous le dira.
Le temps le dira. Je rappelle juste le thème de cette journée internationale de la démocratie des Nations Unies qui dit « Le courage est mis à l'épreuve quand on est dans la minorité, pour ne pas dire dans l'opposition. Et la tolérance est mise à l'épreuve quand on est dans la majorité, quand on est au pouvoir. » Et parlant des élections, Godson émettait un vœu dans son rêve, dont je souhaite qu'il se réveille tôt, c'est qu'on fasse des élections au Togo, des élections claires, transparentes, où les vainqueurs sont félicités par les vaincus, dans toute la transparence. Et nous avons des occasions qui se profitent déjà à l'horizon. Les élections législatives et régionales, vers la fin de l'année 2023 ou début 2024, et surtout l'élection présidentielle de 2025. Godson, nous nous donnons rendez-vous à ces échéances électorales et je souhaite que tu te réveilles de tes rêves à ces élections à venir.
C'est à croire que celui qui a écrit un de nos articles cette semaine avait lu dans mes pensées. Mm-hmm. Quand on a titré comme quoi il y a un projet de septennat,
oui,
qui est en gestation, mais dont personne ne veut parler. Ceci pour dire quoi? Que, effectivement, des élections se profilent à l'horizon. Mais, à supposer que, comme j'aimais pour lui le dire, ce soit l'opposition qui soit en état de délitement, ce qui n'est pas tout à fait vérifié, puisque lui-même, il ajoute que le pouvoir en place arrive par tous les moyens pour gagner. Reste à savoir par ce qu'il dit, met dans tous les moyens là. Et donc, excusez-moi, je crois avoir perdu un peu le.
Oui, non, tu parlais donc du parti au pouvoir qui se donne tous les moyens de gagner toutes les élections.
Effectivement. Donc, pour ces prochaines élections, ce serait un honneur pour notre président. Après tout, Ford Gnassingbé est le président de tous les Togolais. Mm-hmm. Ce serait vraiment un honneur pour lui s'il tape du poing sur la table et demande à ce que, au niveau de la CENI, que la transparence soit la règle. Ce n'est pas les élections apaisées qui font d'elles des élections transparentes. Mais c'est plutôt le contraire. Quand c'est transparent, ça devient apaisé. Mais le contraire, ce n'est pas vrai. Merci. Donc, j'ai toujours confiance en notre chef de l'État qui fera en sorte que, même si son parti sera battu, que ça soit avec les honneurs.
Merci, mais cette mission doit être partagée. Ford Gnassingbé a sa mission, mais tu l'as dit, Godson, il y a également la CENI. Je rappelle que nous avons une commission électorale nationale indépendante. Est-ce que monsieur le président de la CENI et ses camarades assument l'indépendance qui est attaché à leur institution? Au-dessus, il y a la Cour constitutionnelle qui valide les élections législatives et présidentielles. Je ne souhaiterais pas que nous ayons un président ou une présidente de la Cour constitutionnelle qui soit obligé de faire un aveu comme leur homologue du Gabon vient de le faire. Inchallah. Une présidente, un président de Cour constitutionnelle qui reconnaît avoir failli à sa mission, avoir été corrompu, avoir validé des élections qui n'en étaient pas, je ne voudrais pas que cette honte vienne entacher nos institutions, à savoir la Cour constitutionnelle et la CENI. Ces graves, ces braves dames et messieurs savent toute la solennité qui est attachée à leur charge et aux missions que nous attendons d'eux ou bien d'elle. Et Godson le disait tantôt, quand tu citais cet article-là, et effectivement, dans sa parution du lundi, Liberté écrivait à la page 4, confidentiel, pouvoir à vie, le plan secret de Faure Gnassingbé pour introduire le septennat dans la Constitution. On ne va pas en débattre ici, mais ceux qui ont le journal Liberté de lundi, vous pouvez lire l'article à la page 4, et s'il y a besoin, les jours à venir, le club La Presse pourra réinviter. Si vous le souhaitez, nous allons continuer avec le gouvernement qui a été recomposé il y a quelques jours et dont les nouveaux ministres viennent de prendre possession de leur charge. Revue de presse avec le télégramme du Togo qui, à la page 3, écrit « Gouvernement Dogbé remanié, éjection, déploiement et redéploiement, le virage vers 2005 définitivement amorcé », s'interroge ce journal, le télégramme du Togo. Pour sa part, le journal du Togo écrit, lui, « Remaniement ministériel, exit Yak Damehram à la sécurité, une erreur monumentale pour ce journal-là ». Autre journal, c'est le Canard indépendant qui écrit tout simplement « Gouvernement, l'étrange remaniement de Faure Gnassingbé ». Pour terminer, Togo Matin écrit donc « Remaniement ministériel, prise de fonction dans une atmosphère détendue ». Et Sorana Germain Pouli, on a assisté durant toute la semaine à ces remaniements qui se sont déroulés dans un contexte empreint d'amitié et de souhait de réussite, quand les partants ont remercié le chef de l'État et se sont montrés quelque peu satisfaits de leur prouesse en souhaitant bonne chance à ceux et à celles qui les remplacent. Juste rappeler le titre de ton journal, Togo Réveil, qui écrit sur le sujet aujourd'hui, juste le temps que je me retrouve. Oui, Togo Réveil, qui parle de la recomposition du gouvernement et qui écrit « Faure Gnassingbé revitalise l'équipe Tominga Dogbé ». Donc pour toi, à ta rédaction, ce remaniement a pour objectif de revitaliser l'action gouvernementale.
Oui, tout à fait. Vous savez que le gouvernement, c'est une chaîne. Et par moment, il peut avoir des maillons que pour une raison ou pour une autre ne tiennent pas forcément et qu'il faille donc...
Que les décibels ne descendent pas, hein, Germain.
Voilà, qu'il faille donc renforcer. Et quand il y a remaniement, je crois que c'est un peu ça. Parfois, c'est des jeux de chaises, comme on dit. On déplace des ministres parce qu'on pense qu'ils seront plus efficaces ailleurs. Ça a été fait dans ce remaniement, mais il y a eu des départs et de nouvelles têtes aussi qui sont entrées en même temps. Comme vous l'avez dit, bientôt, ce sont les élections et ce n'est pas exclu qu'un tel remaniement ait, entre autres, objectif aussi, l'élection. Mais après, il y a une feuille de route qui a été définie dès le début, dès la prise de fonction de ces ministres-là, avec des engagements qui ont été signés à l'époque. Est-ce que c'est sur la base, finalement, des résultats que certains ministres ont été débarqués, d'autres mutés? Donc on ne saura le dire, mais a priori on pourrait le penser. Et pour nous, donc, à Togo Réveil, c'est pour revitaliser l'équipe gouvernementale que ces remaniements ont été faits. On ne s'y attendait pas, personne ne s'attendait véritablement à ces changements. Ça a été fait. Dans l'opinion, certains sont satisfaits, d'autres pensent que il n'y a pas un grand changement, mais quand on voit des processus de passation, on peut quand même se dire que bon, chacun pense qu'il a fait de son mieux, a souhaité le meilleur à celui qui arrive. Et ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'il y ait continuité de l'État. Vous savez que parfois, quand des ministres viennent, ils ont tendance à tout chambouler, non seulement le personnel, mais voilà, donc ils essaient de tout retoucher. Il faut que ces ministres-là s'inscrivent déjà sur les chantiers qui avaient été entamés par les prédécesseurs et qu'ils continuent. Il ne faut pas qu'ils ouvrent d'autres chantiers. C'est vrai qu'il y a une feuille de route gouvernementale, mais les priorités, il faut peut-être s'inscrire dans cette continuité-là. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à ce ministre parce que les Togolais ont besoin qu'il réussisse. Il y a la vie chère aujourd'hui, il y a l'emploi des jeunes, il y a les besoins de formation, la situation des femmes et tout cela. Donc le développement est une nécessité pour l'Afrique et pour le Togo en particulier. On espère que donc tous ces changements-là vont contribuer à mieux armer notre gouvernement pour qu'il travaille un peu dans ce sens.
Merci. Gbande Kossi, Francesco, pour l'essentiel. Hein, Yark, qui quitte la sécurité hein, pour l'hydraulique, pour l'eau et l'hydraulique villageoise. Pendant ce temps, Ayoadan cède la communication, les médias et le porte-parole du gouvernement à Florence Yawa Kuigan. Le secrétariat général du gouvernement est maintenant assumé par Christian Trémoin, avec départ de Kanka Malik Nachaba. Adedie quitte le commerce pour l'urbanisme et la réforme foncière. Lequel ministère du commerce revient à Dame Rose Mivedor, qui a laissé la promotion de l'investissement à la nouvelle venue, Madame Santos. Et puis, la sécurité, désormais, l'œuvre de colonel Calixte Batossi Madjoulba, pendant que le colonel Awate quitte la préfecture d'Aguenyevé pour prendre la succession de Paya Doua Boukwesi à l'administration territoriale, et que Jean-Marie Kofi Tessi laisse GTA pour venir prendre l'accès universel aux soins.
Oui, curieux remaniement ou micro remaniement, et puis on a l'impression hein, que ce remaniement est inachevé, parce que il y a des ministres qui ont quitté des portefeuilles qui n'ont pas eu de remplaçants, et puis aussi
lequel par exemple,
je prends Trimois, parce que ça fait deux lourds ministères, parce que quand vous prenez le secrétariat du gouvernement, c'est beaucoup de travail.
Hein. Au quotidien.
C'est la tour de contrôle même du gouvernement. Et donc, cumuler les deux postes, je ne pense pas. Et puis, comment l'appelle-t-on ? Et il y a... On nomme des ministres, on dégomme des ministres, on ne dit pas bon, quelle est leur future fonction. Précédemment, dans les décrets, quand on sort les décrets, on dit est mis à la disposition de tel. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais depuis un moment, on a l'impression seulement qu'on pousse les gens hein, à la sortie hein, sans leur donner une autre issue où on ne sait pas. On laisse la supputation hein, pour le reste. Sinon, si on dit que véritablement ce gouvernement, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements qu'on a voulu changer, je crois qu'il y a des ministères hein, qu'on pouvait toucher. Il y a le ministère des Finances. Il y a le ministère des Finances qui et puis vous prenez ces ministères de développement à la base. Depuis quand ils ont pu porter le développement en haut, en hauteur? Donc on est toujours à la base. Vous voyez, donc il y a quand même et matière à s'interroger sur l'objectif de ce remaniement et à voir que nous assistons de plus en plus à, disons, deux factions, en quelque sorte. Sinon, trois au sein du gouvernement. Ça doit être certains appartenant au chef de l'État, certains appartenant à la PM, et bon, les plus maniables, peut-être au milieu. Parce que si on dit vraiment que c'est que le gouvernement, les choses ne marchent pas, je ne pense pas que c'est ce remaniement qu'on devrait faire. Mais dommage que notre frère et ami... le ministre Ayoadan, hein, que nous avons l'habitude de, avec qui nous avons l'habitude de débattre dans ce bureau et dans ce studio, qu'on ne l'aura plus ici en tant que ministre, mais j'espère que là, très prochainement vous allez l'inviter hein, pour qu'on se retrouve à un café. Sinon, bon vent.
Hein, mais entre nous, cela se fera sûrement. Et je l'ai dit hier, nous espérons, nous seulement au Club de la Presse, que tous les médias, hein, nous espérons que Dame Florence Yawa Kuigan saura se rendre disponible comme son frère Ayoadan savait l'être dans la mesure de cette disponibilité. Voilà. Eh bien, Godson, c'est vrai que l'opportunité ainsi que le choix des hommes hein, relève du pouvoir discrétionnaire. Hein, l'opportunité de ce remaniement ainsi que le choix des hommes et des femmes relève du pouvoir discrétionnaire. de Fort Niassingbé. Mais quand on se rappelle que nous sommes à quelques moments des élections législatives, lesquelles élections auraient pu amener à chambouler la scène politique, peut-être induire un nouveau gouvernement, et puis à moins de 2 ans de l'élection présidentielle que Fort Niassingbé opère ce remaniement que d'aucuns trouvent même incomplet. Toi, quelle est ta lecture de la chose?
Même si ça, tu demandes ma lecture de la chose.
Mm-hmm.
Tout à l'heure, Germain parlait du fait qu'on veut revitaliser le gouvernement.
Oui.
Quand je prends certains ministres, par exemple l'ex-ministre de la Sécurité, Yac,
oui.
S'il n'y avait pas eu de remaniement, à partir du 3 octobre prochain, il devrait partir en congé et rentrer dans sa retraite, qu'il devrait prendre en janvier 2024.
Comme militaire.
Voilà.
Mais sa retraite militaire ne devrait pas avoir d'incidence sur la fonction politique de ministre.
Effectivement. Mais quand moi j'ai appris qu'il est parachuté dans l'eau,
il est nommé au ministère de l'eau.
Monsieur Sass, je sais pourquoi j'utilise l'expression. S'il est qu'il a plongé dans l'eau, je crains pour ceux qui, au ministère, avaient eu à mal gérer le projet de mise en place de châteaux d'eau sur toute l'étendue du territoire.
Mm-hmm.
Selon un rapport de la Cour des comptes datant de 2020, au moins 30 châteaux d'eau devraient émerger. Mm-hmm. Mais à la date requise, aucun d'entre eux n'était achevé.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on sait comment le nouveau ministre de l'eau s'est fait tenir les gens dans la barque, je crains que les soumissionnaires aient...
Non, il faut plutôt espérer que son arrivée au ministère nous fasse découvrir les châteaux dormants.
Les châteaux dormants. On prie tous pour ça. Mais ce qui est sûr, oui. Ça va bouger là-bas. C'est mon avis personnel. Voilà. Concernant la nouvelle entrante, Dame Santos Nerissa Modupe, si j'avais ce pouvoir, j'initierais une forme de Nice, tant au niveau de l'Assemblée que du gouvernement, pour qu'on voie le gens défiler et qu'on apprécie leur beauté. Parce que la dame là, juste quand j'ai vu sa photo, je me dis, ça vaut la peine.
Ah, donc, tu te ferais bien son attaché de presse.
Ne me fais pas des intentions.
Elle est mariée, vous connaissez son mari.
Toi, tu t'es mariée, n'est-ce pas?
Dans la vie, il y a le thème marié et le thème divorcé. Donc, allons-y en allant.
Okay. Bon, restons à la ministre.
Voilà. Mm. Je veux dire aussi que concernant. Tout à l'heure, mon ami disait que le remaniement a un goût d'inachevé.
Selon lui. Ce que d'autres confrères aussi ont dit.
Je suis tenté d'épouser son idée. Surtout quand je vois comment va s'effectuer la rentrée scolaire prochaine. Je veux craindre pour le ministère de l'Éducation. Avec les augmentations des frais de scolarité. Alors que
dans les écoles privées
et ces augmentations, nous les avons relayées et ça a sa base, c'est justifié. Mais ça, tiens-toi bien que nous risquons, tous les parents d'élèves risquent à la rentrée scolaire 2024-2025,
oui.
De voir encore ces frais d'inscription rehaussés. Pour la simple raison que nous l'avons dit dans l'apparition de mardi.
De liberté.
Oui. Il y a un rapport du professeur Gbikwi qui a préconisé déjà en 1995 que chaque élève soit subventionné, les frais de chaque élève soient subventionnés par l'État togolais à hauteur de 11 800 francs. Nous sommes en 1995.
28 ans après,
l'État n'a rien fait dans ce sens. Mais pire, à la rentrée 2023-2024, aucun enseignant du privé ne percevra encore en bas du SMIG des 52 500. Ça veut dire que s'il était payé à 25 000, il verra sa son traitement salarial presque doublé.
Plus que doublé.
Mais vous voulez que les fondateurs décollent tout cet argent-là où? Ça, je vais encore plus loin. Les anciennes écoles nationales d'instituteurs qui ont été transformées en écoles normales de formation des professeurs d'école. À la rentrée 2024-2025, injonction est faite à toutes les écoles, tant du public que du privé, de ne recruter qu'au sein de ces professeurs-là.
Qui auront été formés.
Or, ils iront à la nouvelle école avec le minimum du bac. Ce qui veut dire que tu ne vas pas recruter ce professeur et lui payer peut-être moins de 100 000 francs. Vous voyez là où ça va. Mais veut-on pousser les écoles privées à la fermeture? Si c'est le cas, le public est-il en mesure de résorber tout l'effectif? Ça, c'est un sujet sérieux. On en a fait cas dans l'apparition de mardi.
Deux questions en une.
Il faut que on se réveille. Je ne suscite aucune révolte, loin de moi cette idée. Mais il y a une vérité qu'on doit pouvoir affronter.
Non, dans ton commentaire, on comprend que si les écoles procèdent à l'augmentation des frais, c'est pour la prise en charge des enseignants qui devront être payés au minimum au SMIC et au niveau correspondant au fur et à mesure qu'on augmente. En même temps que les enseignants, tout le personnel d'ailleurs, devrait être déclaré à la sécurité sociale un minimum de confort pour le personnel officiant dans ces écoles. Pour toi, c'est ce qui explique que les promoteurs d'école soient obligés de revoir à la hausse les frais d'inscription, les frais d'écolage. Et à cela, il faut ajouter aussi les parents d'élèves que tu es, Germain. À cela, il faut ajouter maintenant la tenue scolaire. C'est vrai qu'il y a quelque temps, le ministère a pris des décisions pour préciser les normes des uniformes scolaires. Il y a également les fournitures qui connaissent une certaine flambée sur le marché.
Oui, je crois que en même temps, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des écoles qui ne traitent pas du tout bien leur personnel. Mm-hmm. Où il y avait déjà les frais de scolarité assez élevés, où le fondateur préférait plutôt amasser que de bien traiter son personnel. Nous sommes aussi conscients qu'il y a des écoles où la qualité de l'enseignement laisse à désirer. Mm-hmm. Et que les gens créent des écoles comme ils veulent. Même sans argent, les gens créent des écoles. Il suffit de monter un appartement, on dit qu'on a monté une école, ce qui a créé quand même, au regard de plusieurs plaintes, le gouvernement a fait un travail et a même sorti en tentant une liste d'écoles qui devraient fermer, tout simplement parce que ces écoles-là ne remplissent pas les conditions pour être des écoles. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc après, ce n'est pas que les écoles qui sont concernées, et quand on en parle, là je suis un peu surpris parce qu'il oublie que nous-mêmes dans la presse, nous avons les mêmes pressions aujourd'hui. Nous sommes des entreprises de presse, on nous a obligés à signer une convention collective où nous devons payer nos collaborateurs.
Dans le moratoire va expirer incessamment.
Voilà, mais c'est même les écoles, c'est encore cadeau. Ce qui va se passer dans la presse est beaucoup plus complexe. Mais en même temps, si on veut la qualité, il faut passer par là. Donc, si vous créez une école, vous payez mal déjà vos enseignants. Comment ils peuvent apporter un enseignement de qualité pour former les élèves? Ce n'est pas possible. Après, c'est vrai, les parents aussi qui choisissent d'aller dans le privé, pour plusieurs raisons, certains parce qu'ils ont des moyens, d'autres parce que l'école publique plus éloigné ou peut-être sous-estime l'enseignement dans l'école publique. Donc, plusieurs raisons. Mais après, les parents doivent faire cet effort-là. C'est très douloureux. C'est très, très douloureux. Mais l'éducation, c'est beaucoup d'argent. Et dans certains pays qui se développent, vous savez comment les gens s'endettent pour se former, surtout dans les universités. Comment par ici, les banques font les prêts scolaires aux parents, c'est devenu une tradition aujourd'hui. C'est qu'on sait qu'il y a des dépenses auxquelles il faut faire face. Mais je pense que les restrictions que l'État a portées au niveau des écoles privées sont justifiées parce que nous étions ici les mêmes à nous plaindre pendant longtemps sur tout ce qui se passe dans les écoles privées aujourd'hui, qu'on veut régler les choses progressivement. Je pense plutôt qu'il faut l'encourager, peut-être travailler en partenariat avec les fondateurs de ces écoles-là pour trouver la meilleure formule qui ne va pas causer la fermeture d'un grand nombre d'écoles.
Merci, mais Germain. Juste rappeler que lundi 18, ce sera la rentrée pour le personnel pédagogique et administratif. Les élèves vont entrer en scène le 25 septembre prochain. C'est dans quelques jours. Les parents d'élèves savent comment pour finir cette rentrée. Et Franco, au-delà de la rentrée scolaire, c'est toute la problématique de la solidarité nationale. Fornia Singe, qui aime dire qu'il ne veut voir aucun Togolais rester sur le quai. Mais comment drainer tous les Togolais dans la solidarité nationale, aussi bien pour l'école, aussi bien pour l'accès universel au sein de santé, aussi bien que pour les besoins basiques de l'eau, de désenclavement des zones de forte production agricole, d'un minimum de loisirs pour les télécoms. Le Togolais devrait être connecté en tout point du territoire. Tout cet ensemble-là de solidarité dynamique, c'est sur ce terrain qu'on attend Fornia Singbe, sa première ministre et tout le gouvernement.
Oui, c'est que nous alignons souvent de beaux mots, mais le terrain dit autre chose. Mais je vais toucher un peu du doigt ce que Godson a parlé, par exemple, au salaire des enseignants. C'est tout à fait normal. Vous trouvez des enseignants qui sont même à 15 000, 20 000 dans le privé, oui, le moins, pour une école qui, a comme frais de scolarité et 50 000, 60 000.
Par élève.
C'est inadmissible. Maintenant, quand on insiste sur le recrutement des gens qui sont formés, vous savez que nous avons eu une vague d'enseignants qui juste ont quitté l'université ou des écoles, qui sont allés à l'enseignement, qui n'ont pas ce qu'on appelle la pédagogie et autres. Aujourd'hui, on a réouvert ces écoles à Tapamé et choses et Noche.
Oh, il y en a beaucoup, pour former
des enseignants, pour que désormais que ce soit des gens qui sont qui ont la pédagogie de pouvoir enseigner, et ça c'est une bonne chose, et on ne peut pas les payer en bas d'un certain montant. Et au gouvernement, au niveau du ministère de la fonction publique également, ces gens, quand ils sont recrutés à la fonction publique, ils ont un salaire conséquent qui n'est plus les queues de liste. Donc c'est quelque chose qui a saluer. Maintenant, les charges des écoles, le personnel, vous prenez par exemple une classe qui a 35 élèves, je crois que c'est la limite, et qui a 70 000 par élève, il est déjà à plus de 2 400 000 pour la classe. On te dit de payer 52 500 pendant 12 mois pour quelqu'un qui, c'est la première matière en dehors du local, la première matière, c'est l'enseignant d'une école, c'est l'enseignant. Donc, il doit être normalement, conséquemment payé. Donc, ils vont hausser. Il appartient également au gouvernement par rapport à des indicateurs que j'ai donnés. Il y a la scolarité, il y a l'effectif, il y a les charges, les évaluer et puis leur donner un canevas, d'accord, à ne pas dépasser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et on doit y arriver. Maintenant, quand je prends le pays tout entier, vous savez, ça, la meilleure façon de faire le social, comme le dit le gouvernement, d'accord, c'est de publier, par exemple, tous les résultats des concours de la fonction publique qui sont restés, disons, et sans suite, alors que les gens ont dépensé. Vous avez donné de l'espoir aux gens. Imaginez ces milliers de personnes qu'on va recruter.
Dizaines de milliers de personnes. Les candidats.
Voilà.
Les candidats sont en dizaines, voire en centaines de milliers.
Imaginez ces milliers de fonctionnaires qu'on va donner. Ça va donner un souffle à tout. Vous savez, derrière un fonctionnaire, combien de personnes est derrière un fonctionnaire?
C'est ça même le véritable social que je demande au gouvernement de Faure Gnassingbé, à Madame Dogbé de faire. Mais ça, quand vous voyez les vagues de licenciements, vous verrez dans notre édition prochaine de Tampa Express, mais vous avez des licenciements. Je prends par exemple la société Ludia Ludique, oui, qui est fermée avec plus de 350 employés qui sont aujourd'hui sans rien. Vous avez Edith Togo, que par exemple, qui a chassé nos confrères. D'accord, ça aussi, c'est un défi pour Madame Yawa Tchegan de voir cette histoire. Et Madame Tchegan. J'ai un coucou à Kuigan. Donc, à Madame Kuigan,
oui,
d'accord, vivement de rappeler ces fonctionnaires pour travailler. Parce qu'on en a vu, les gens sont totalement désœuvrés. Il y a beaucoup de ces cas que le gouvernement doit faire avant de dire que je vais aller distribuer. C'est parce que derrière ceux-là à qui on distribue les 500, s'ils avaient recruté leurs enfants, ils n'auront pas besoin des 1000 francs de 10 000.
Pour ces concours. Et c'est vrai que le gouvernement en fait passer un certain nombre. Hein. Il y a quelques jours, on a encore fait passer dans le secteur de l'enseignement.
De l'enseignement.
Bon, alors pour l'enseignement, oui, la santé, on publie les résultats à plus ou moins brève échéance, mais des concours qui ont été passés pour l'économie et finance, pour l'agriculture, et surtout le grand concours de la fonction publique qui a été passé il y a déjà près de 2 ans, dont les résultats dorment toujours dans les placards. Peut-être qu'il plaira un jour au ministre Gilbert Bawara de réveiller ce dossier-là et de le signaler à ses supérieurs, la chef du gouvernement, au chef de l'État, si on publie ça. Hein, tous ceux-là qu'on va recruter iront d'abord revitaliser les différents secteurs de la fonction publique, et puis c'est la vie nationale qui se retrouvera vraiment redynamisée. Il est 11h47. Nous allons maintenant aborder les catastrophes naturelles. Nous le savons tous, le week-end dernier, le Maroc a été secoué par un séisme dans la région de Marrakech et dans le Haut Atlas. Les chiffres communiqués hier laissent entendre autour de 3000 morts, 5600 blessés, des disparus, 50 000 habitations détruites au Maroc. Mais ça, c'est le côté envers. Côté endroit, on sent au Maroc un grand élan de mobilisation nationale, tous azimuts, aussi bien pour les secours et la prise en charge des sinistrés. Ceux qui ont écouté RFI ce matin ont une idée de comment le Maroc s'est montré solidaire, nationalement solidaire autour des sinistrés. Ce Maroc même qui a eu le culot de faire prévaloir sa souveraineté nationale dans l'acceptation même des aides extérieures qui lui étaient faites. Alors qu'ailleurs, nous on demande, tous azimuts, le Maroc sélectionne quel pays va venir l'assister dans cette catastrophe. Et en même temps, le Royaume du Maroc n'a rien changé dans son agenda. Le Maroc doit accueillir des sessions du FMI, de la Banque mondiale, courant septembre à Marrakech, et le Royaume du Maroc maintient ses agendas. Ça veut dire une certaine souveraineté, une certaine fierté nationale. À côté, on a le pays voisin de la Libye, qui a été également victime d'une tempête tropicale, de fortes averses qui ont provoqué la rupture de 2 barrages, causé des inondations monstres dans la localité de Derna. On annonce entre 20 000 et 30 000 morts et disparus. Mais Godson, ce que les premiers éléments mettent en cause, c'est que les infrastructures, notamment les barrages de la Libye, n'avaient pas eu l'entretien, la maintenance nécessaire. Donc, c'est faute d'entretien que ces infrastructures ont rompu avec tous ces désastres que nous connaissons. Et pour venir chez nous aussi au Togo, toute proportion gardée, hier, nous avons connu des accidents de bateaux de pêche qui ont été renversés. D'aucuns disent que c'est la haute marée. D'autres disent que c'est le chenal d'accès au port de pêche qui est trop étroit et qui cause ces accidents. Et de l'autre côté également, c'est notre côte qui disparaît à vue d'œil. Il y a quelques jours, le Togo a bénéficié
d'un crédit de 23 milliards de francs CFA accordé par l'Agence française de développement destiné à la réalisation des travaux de tronçon Bodjomé à Godrafo, long de 7 km. Godson, pour ce qui est de la protection de la côte togolaise contre l'érosion côtière, tu en sais quelque chose. Toi qui fais partie de la radio du littoral.
Comme si toi-même qui me poses la question, tu n'en savais pas beaucoup.
Mais tu en sais plus que moi.
C'est d'abord pour parler de l'accident survenu au port de pêche.
Oui.
Si j'ai bonne mémoire, il y a un rapport des Japonais qui avaient visité la structure et avaient relevé le fait que l'étroitesse du chenal pouvait causer des problèmes aux pirogues.
Mais c'est le Japon justement qui a financé la construction de ce port de pêche.
Soit dit en passant, nous sommes un pays côtier qui devrait normalement tirer le meilleur parti de notre mer. Mais le Togo n'a pas un seul chalutier, c'est-à-dire bateau de pêche. Un pays qui borde la mer, mais qui va à la pêche avec des pirogues. Est-ce que ça sonne bien? Non. Des pirogues pour que la mer profite à tout un pays. Ce n'est pas bien. Ça, ayons le courage de dire qu'on doit pouvoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça pour servir les pays de l'Interland. Mais si déjà nous-mêmes nous n'arrivons pas.
La population togolaise d'abord.
Voilà. Si nous-mêmes nous n'arrivons pas à couvrir nos besoins, mais nous sommes toujours obligés d'importer du poisson alors que nous avons la mer, il y a des interrogations au niveau de la gouvernance. Parlant de ce qui a. C'est produit au Maroc et en Libye.
Oui.
Je prends d'abord le cas de la Libye où le manque de maintenance des infrastructures serait pointé du doigt. Qui gouvernait la Libye et qu'en a-t-on fait? Ce monsieur-là, quoi qu'on dise, il fallait, si on interrogeait les Libyens, en ce temps, la Libye faisait des jaloux. Disons-le. Et si aujourd'hui il y a des catastrophes et on impute cela au manque d'infrastructures, derrière les responsables lointains, c'est ceux qui étaient pour la destruction de ce pays. Parlant du deuxième, j'aurais aimé voir nos dirigeants africains défiler comme ils l'avaient fait quand il y a eu une certaine attaque contre le journal Charlie Hebdo en France, où nous avons vu des chefs d'État pleurer parce que il y a eu une fusillade. Ici, il s'agit de milliers de morts. À quand une délégation de nos chefs d'État pour aller pleurer ou alors se recueillir sur la tombe des victimes?
Merci Franco. Au choix, le port de pêche, la côte togolaise a protégé par des épis, où la solidarité et la fierté du Maroc dans cette épreuve du séisme et un peu le dilettantisme qui a causé cette dizaine de morts et de destructions en Libye.
Oui, il n'y a pas que le Maroc qui est fier de sa souveraineté. Il y a l'Égypte aussi qui vient d'être classée dans les pays 33e mondial. L'Égypte, quand il y a eu accident dans le canal de Suez il y a un ou deux ans, mais tout le monde, les Américains, tout le monde voulait venir en aide. Ils ont dit, niet, nous allons faire notre travail, ils l'ont exécuté. Vraiment, pour l'accident au port de pêche, malheureusement, que les Togolais, c'est eux seuls qui pleurent leurs morts. Quand il y a des attentats dans les savanes, quand il y a, comme c'est mort 17, selon ce qu'on nous dit, personne, aucun pays étranger même ne nous dit condoléances. On vit comme si c'est nous qui devons toujours aller au secours des autres. Il a parlé tout à l'heure de l'exécution des travaux de ce port de pêche. Il y a eu beaucoup de scandales autour de ces travaux. Et comme on l'a dit, l'entrée est petite. Ça ne peut pas accueillir un charretier parce que à l'époque, quand ils avaient fini le port ce port de pêche est inauguré, mais les Ghanéens ont couru venir ici qu'ils vont abriter désormais leur charretier chez nous au Togo. Mais ça ne peut pas rentrer alors que on est en train de faire un travail pour le futur. Donc, on a fait un travail pour et les pirogues et non pour choses. Et ceux-là qui ont exécuté les travaux, comme il dit, il y a une étude de la Chine,
du Japon,
ceux-là qui ont exécuté les travaux, ils sont là. Ils roulent, peut-être ils sont encore au pouvoir, aux affaires et autres. Et ce n'est pas normal qu'on prenne de l'argent à des taux d'usurier même parfois et on fait de mauvais travaux. Donc, vivement que notre gouvernance s'interroge sur, l'impunité qui est accordée aux gens qui exécutent mal les travaux et qui mettent les populations en danger. Merci. Et le secours, est-ce que si nous avons un bateau, une pirogue qui chavire, est-ce qu'il faut attendre encore la France ou bien les États-Unis pour nous venir en aide? Où sont nos moyens de sauvetage? Et ça, je vais vous dire, dans la plupart des cas, quand quelqu'un tombe à quai dans l'eau, ou ce cas, c'est qu'on attend quand la mer va rejeter le corps.
Mort.
Moi, je n'ai jamais vu, sinon suivi dans l'histoire du port autonome de Lomé, qu'on a pu sauver quelqu'un qui se noie. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, quand vous voyez les moyens, c'est tellement. Vous voyez, quand il y a même incendie, on dit que peut-être une pièce, peut-être c'est une bougie qui
merci
a manqué.
Merci Franco. Pour le temps, nous allons aussi écouter rapidement et sort Renan Germain sur le sujet. Germain, s'il te plaît.
Oui, donc, non, moi je pense que la solidarité est de mise. Hein. Le Togo a manifesté sa solidarité au Maroc. On n'a pas envoyé des moyens. La Turquie avec le séisme, le Togo avait quand même apporté une aide financière. Maintenant, ces aides-là, le Maroc est un pays développé qui peut se permettre de refuser certaines aides. Mais quand on prenait un pays comme le Canada qui fait face à des incendies, mais ils acceptent des sapeurs-pompiers des autres pays qui viennent les aider. Nos frères du Ghana, on n'en parle pas assez une fois. J'avais eu à échanger avec des sapeurs-pompiers togolais. Ils interviennent même au Ghana pour éteindre les incendies. On n'en parle pas assez. Une fois, les Ghanéens sont venus au Grand Marché ici. On en a parlé comme s'ils étaient plus équipés. Ce n'est pas ça. Les Togolais aussi interviennent là-bas. Donc, cette solidarité-là est plutôt une bonne chose. Les Marocains ont ciblé les pays. Ils ont accepté de l'aide quand même du Qatar, de l'Espagne, de certains pays.
Voilà.
Mais quand vous voyez la France qui veut aider en Libye, par exemple, on dit qu'on a envoyé un hôpital de campagne. Mais si ce n'est que ça, moi je suis en Libye, je dirais qu'on n'a pas besoin de ça. Si c'est l'aide qu'on peut apporter.
Mais les Libyens ont accepté.
Oui.
Le Maroc a dit oui.
Les Libyens aujourd'hui ne sont pas les Libyens d'hier. Le pays a des difficultés. Et sinon, ils auraient pu refuser. Donc, cette aide, elle est normale. Mais après, il faut que les pays s'organisent pour être beaucoup plus autonomes. C'est une question de souveraineté, c'est vrai. Mais il y a cette solidarité internationale. Maintenant, il s'agit de la solidarité nationale. Qu'au Togo même, le plus fort aide les plus faibles. Ça, c'est plus important. Il ne faut pas attendre en temps de catastrophe. Et puis, sur le port de pêche, il ne faut pas que cette branche-là cache la forêt, cet accident. Je crois que le fait de moderniser ce port-là avec l'appui du Japon, ça a permis d'accroître la productivité aujourd'hui au niveau de la pêche. Il y a des centaines de milliers de Togolais qui vivent aujourd'hui de ce port de pêche. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'il y a aujourd'hui un certain essor de la pêche au Togo grâce à cet appui du Japon pour moderniser. C'est vrai qu'on peut faire encore mieux, mais aujourd'hui, ce qu'on a, on peut dire que ça permet de le faire. Mais les poissons qu'on sort de ce port ne peuvent pas nourrir les Togolais. Il y a la pisciculture qui se développe, notamment dans les plateaux, soutenu même encore cette production-là. On est très loin de la consommation locale. Il faut que d'autres Togolais s'engagent aussi pour produire dans la...
Merci Germain. Il met le midi. Nous allons juste terminer par deux articles pour manifester notre solidarité à l'endroit de tous nos compatriotes. Il y a le confrère Canard Indépendant qui nous transporte dans la région des savanes, notamment dans la localité de Bouldjouaré.
c'est dans la commune Pendjal 2, c'est même le chef-lieu, non plutôt dans la commune de Pendjal 2, Bouljouaré, un village paisible jusqu'à l'apparition des groupes armés dans la région. Donc le camp indépendant nous partage avec nous le quotidien des femmes à l'épreuve de l'insécurité à Bouljouaré dans Pendjal 2. Nous parlons tantôt de chaîne de solidarité au Maroc. Nous devrions maintenir la même chaîne ici chez nous. Bouljouaré, c'est le Togo, c'est Bassa, c'est Haoutoué, c'est Palimé, c'est Anéro, c'est partout. Nous devons nous montrer solidaires les uns envers les autres. Autre acte de solidarité, c'est l'hôpital Dr Lafier qui vient d'ouvrir 4 nouveaux services dont nous parle Togo Réveil avec le bloc opératoire. 4 nouveaux services enrichissent les offres de l'hôpital Dr Lafia, lequel hôpital a annoncé même il y a quelques jours qu'il offrait même des services hors hôpital. Depuis votre maison, depuis votre service, vous pouvez solliciter l'intervention de Dr Lafia. C'est pas encore comme il faut, mais nous allons y arriver par la solidarité nationale, par la fierté, si bien que quand nous verrons le drapeau togolais flotter dans le vent, nous nous sentirons vraiment interpellés. Et quand nous allons écouter l'hymne Terre des Aïeux chanter quelque part, nous nous sentirons fiers, n'est-ce pas, chers amis auditeurs? Nous nous connectons avec vous dans un petit moment.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Merci. Nous avons parlé de la journée internationale de la démocratie. Nous avons esquissé un bilan du parcours du Togo de 91 à ce jour, les défis, les perspectives. Et puis nous avons revisité le gouvernement recomposé, les attentes des Togolais en termes de revitaliser l'action gouvernementale pour plus de solidarité et d'inclusion nationale. Puis on a parlé également des comportements que nous devrions avoir en prévision ou bien en gestion des catastrophes naturelles chez nous ici ou ailleurs. À présent, la parole est à vous avec à mes côtés Godson et Sohana et Bandé. Déjà un premier auditeur en ligne?
Oui, le premier c'est Gardo.
Monsieur Gardo, premier.
Oui, non, je suis un roi quand même. Bon, ça, vous savez, ceux qui ont détruit la Libye, là, c'est-à-dire les États-Unis et la France, par exemple Obama et Sarkozy. Sarkozy a commencé à goûter un peu la justice. Mais dites-moi ça, le plateau, quand est-ce qu'Obama lui aussi va commencer à goûter la justice? Merci.
Je vous en prie, c'est vrai que la Libye sous Kadhafi hier, la Libye sans Kadhafi aujourd'hui, tout le monde peut faire faire la part des choses. Deuxième auditeur, bonjour.
Oui, allô, oui, bonjour, ça.
Oui.
Oui, bonjour, Didier.
Didier, on dirait que tu manques un peu d'énergie ce matin.
Oh non, c'est un peu, il y a un peu de frappe, ça
ok.
Va. Ouais. Ça, moi, je voulais mettre un peu de marque dans la fierté des Marocains. Si sous couvert de politique du Polisario, il refuse l'aide de la France, il pourrait refuser pour les autres aussi. Le Maroc, c'est d'accord, appliqué les décisions que l'Union africaine lui a imposées sur le Polisario. Il n'a qu'à accepter le référendum de l'Union européenne. C'est une clique qui date depuis longtemps, qui ne veut pas. Ils veulent que tout le monde épouse son point de vue. Il n'a qu'à appliquer les décisions que les instances internationales appliquent. Ou soit, il n'a qu'à refuser l'aide de tout le monde. Ça, c'est pas une fierté. Quand il y a un détresse, tout le monde, même ton ennemi, peut t'apporter de l'aide. Mais si ce coup de la politique refusait l'aide, vous refusez l'aide là, ce n'est pas une fierté. Je vous remercie.
Je vous en prie. Mais le constat, c'est que le Maroc assume la ligne qu'elle s'est tracée et oser dire à des gens, attendez, ce n'est pas donné à tout le monde. Troisième auditeur.
Alors, ça, c'est bonjour.
Bonjour.
Je salue les invités.
Nous vous saluons aussi, c'est monsieur.
C'est Karim le taximan.
Karim le taximan.
Oui.
Oui.
Moi, je voulais parler du remaniement du gouvernement.
Mm-hmm.
Il y a certaines personnes que le Fong Yassine devait changer, qui n'a pas pu faire. Et c'est ça qui m'a étonné.
Mm-hmm.
Première des choses, ministre Lepa Boubé, ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que ce monsieur nous a fait durant son parcours, qu'est-ce que le monsieur-là nous a fait? Il devait être remplacé et trouver un remplaçant, c'est mieux. Il devait aller se reposer. Il a quitté à la tête ou bien quelque part, il est venu comme l'agriculteur. Il n'a rien foutu, il est venu nous détruire seulement.
Mm-hmm.
Deuxième chose, ministre de la jeunesse. Qu'est-ce que la dame l'a fait pour la jeunesse maintenant? La jeunesse est devenue vaudie, boire, fumer, la drogue, fumer n'importe quoi. On est ministre de la jeunesse qui ne sensibilise jamais, qui sont dans leur bureau seulement.
Si ces derniers temps, madame Dessous, on l'entend un peu partout dans les centres de jeunesse, sur les médias, en train d'exhorter la jeunesse à adopter des comportements sains. Allô, Karim? Karim, il est parti? Ok.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Akleson depuis Mission Tauvé.
Ah, nous écoutons.
Oui, actuellement, comme le ministre Yark maintenant est devenu ministre de l'eau, là, au moins on aura l'eau à Mission Tauvé.
Uh-huh.
Parce que apparemment, on cherche l'eau même à Mission Tauvé. On a tout seul les forages qu'on nous refuse là. C'est ça, on est en train de faire un à un et c'est fini. Donc, depuis là, il y a quelque chose là-bas que la régie traîne. Mmh. Et pour amener vers l'eau. Mais à Mission Tauvé, il n'y a pas l'eau.
Merci.
D'accord. Donc, il faut qu'on pense à nous aussi. Apparemment, nous sommes beaucoup aussi là-bas.
Non, je m'associe à cette action. Je vais me mettre à côté de mes beaux-parents pour aller plaider pour vous auprès de Yark. Il faut que Mission Tauvé ait de l'eau.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Je vous en prie.
Bonne émission.
Merci, M. Akleson. Depuis Mission Tauvé, le prochain auditeur. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Sass.
Bonjour.
C'est Abdoul.
Abdoul.
Oui.
Nous vous écoutons.
La fois dernière, Ali Bongo avait crié au secours à ses amis. Or, UNIR aussi était parti pour lui soutenir sa candidature. Je ne sais pas si UNIR a pu aller là-bas pour l'aider. Deuxièmement, les militaires, c'est eux qui savent maintenant si les élections sont fraudées ou pas.
Mmh. Au Gabon, ça?
Oui, partout maintenant, parce que c'est eux qui font les coups d'État. Mais ici, au Togo, on n'a pas cette chance, parce qu'il y a plusieurs soldats qui sont ministres. Je ne sais pas si un jour, les militaires ici aussi vont nous dire qu'il y a une élection qui a été fraudée ou pas. C'est ça ma question.
Non.
Merci, que Dieu bénisse le Togo.
Amen. Mais nous avons dit, hein, et c'est Godson qui a dit qu'il rêvait du jour où on va faire des élections vraiment claires, transparentes et pacifiques par la suite, où les vainqueurs reçoivent légitimement les satisfactions des vaincus. C'est ce que nous avons choisi depuis 91, et nous avons la foi. N'est-ce pas, Godson? Dis oui.
Oui.
Ok. Merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Allô?
Allô?
Oui.
C'est Armand.
Armand, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Mm-hmm.
Il faut dire que certains vont trouver le comportement des autorités marocaines un peu choquant. Mais c'est que il faut vraiment comprendre la géopolitique et la politique en général pour comprendre les Marocains. C'est pas parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle qu'on va laisser tout qui dame débarquer dans le royaume. Et nous savons très bien que, comme l'a dit l'autre, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts.
Mm-hmm.
Ceux qui accourent de je ne sais pas où pour venir, soi-disant, pour aider, ils ont d'autres intentions.
Mm-hmm.
Donc vraiment, un chapeau pour les Marocains. Merci.
Je vous en prie, Armand. Qui passe le témoin au
suivant?
Oui, bonjour.
Ouais, bonjour. Comment
oui.
Vous allez, ça?
Ah, comme vous nous écoutez.
Ah, ok. Bon, moi, je suis fier un peu du remaniement. Mais particulièrement, je voulais parler de M. Yack, le ministre.
Mm-hmm.
Pourquoi il n'est jamais invité sur votre plateforme?
Ah, ou bien vous n'êtes pas fidèle au club de la presse? Le général Yack, nous l'avons reçu par deux, trois fois même, quand son agenda le lui permettait.
Là, j'ai pas bonne mémoire.
Oui. Et tant qu'il ne peut pas être, il ne peut pas se libérer, il nous envoyait son directeur de cabinet, le colonel Akobi, les services de l'ANPC. Et puis, il a dit que
plutôt que le ministre vienne parler, il préférait nous envoyer ses services techniques.
Mais lui-même en présence, ça serait un peu confiant, non?
Ok, nous allons passer le message à son successeur Calixte Majolba.
Bon, c'est Wonderful depuis Zoroba.
Wonderful depuis Zoroba.
Oui.
Dans le bar ou bien à côté?
Ben, ta table ici, là-bas.
Je ne refuse pas. Vous êtes dans le bar même ou bien à côté?
Non, je suis dans une banque du milieu.
Ok. Nous sommes quatre au studio aussi avec des techniciens. Pensez à nous aussi quand vous sortez de la banque.
Ah, évidemment.
Merci beaucoup, Wonderful.
Okay,
c'est bon pour jour. La bonne humeur. Le suivant. Alors, en attendant l'auditeur suivant, Thomas, il s'annonce. Oui, l'ami, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon commandant.
Ah, c'est Patrick?
Oui, c'est lui-même.
Mm-hmm.
C'est comment?
Ah, c'est commandant, tu as dit.
Ah, voilà. Bon, monsieur Sass,
oui.
Ce matin-là, dans un premier temps, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais permettez-moi de dire un grand merci à votre confrère, là, monsieur Godson.
Le barbu.
Pardon?
Le barbu.
Ah, le barbu, justement. Ah,
oui.
Bon, chaque fois quand ce monsieur-là vient, quand il décortique l'actualité, vraiment, il essaie quand même de faire son boulot.
Mm-hmm.
Pas plus que ce matin, ce qu'il a encore dit concernant notre port de pêche-là, où vraiment, monsieur Sass, il suffit seulement à la sortie. Vous allez voir. Faites un tour. Laisse là où les pyroïdes restent là. Allez-y là où les bonnes femmes s'en vont pour s'accouper des petits poissons-là.
Mm-hmm.
Vous allez voir tout ce qui se passe là-bas. Déjà, si vous voyez le milieu, il y a 4 ou 5 hangars là-bas. Et quand les eaux suivent, quand les bonnes femmes là, le poisson, ça, là où jettent les eaux, là, quand vous allez là-bas, il y a une odeur nauséabonde qui vous accueille. Parce qu'il n'y a pas, les eaux ne sont pas fermées.
Mm-hmm.
Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Et maintenant, au niveau là où ils gardent les pirogues là, vraiment, c'est le comble. C'est
pourquoi je vous Patrick, il y a quand même un directeur qui est nommé pour la gestion du port et pour sa maintenance, tout ça là.
Justement, s'il y a un directeur, ben, ça ne devait pas être le résultat. Si tout se fonctionnait dans les normes,
mm-hmm.
ça ne devait pas être le cas. Vous voyez, non? Donc, vraiment, qu'on trouve une solution pour que tout ça là puisse bien marcher pour le bien-être de toute la population.
Merci. Merci. Alors pour cela, c'est vrai que nous interpellons toujours le gouvernement, le président de la République, mais à différents niveaux. Il y a des directeurs qui sont nommés, il y a des chefs de service. Comme Monseigneur Barriga le dit là, si chacun faisait sa part, tout le monde se porterait mieux, n'est-ce pas? Le directeur du port, est-ce que vous pouvez prendre des mesures pour la maintenance et pour la sécurité de vos collaborateurs? Ça au moins, vous pouvez le faire, monsieur le directeur.
Non, c'est sûr qu'il y a un directeur pour le port de pêche même.
Oui. Alors, c'est lui que nous interpellons.
Voilà.
On n'a pas besoin de demander à Fornia Singbe d'aller quand même nettoyer le port de pêche.
Voilà.
Un dernier auditeur, Thomas. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Johannes.
Oui, Johannes.
Je me rappelle des louanges de beaucoup de journalistes lorsque ce fameux port de pêche a été inauguré il y a quelques années. Et c'est les mêmes choses qu'on constate à chaque inauguration dans ce pays. Voilà. Et je me dis qu'il va falloir changer de méthode parce que il ne faut pas attendre forcément qu'il y ait des soucis après ces inaugurations en pompe avant d'avoir des avis critiques. Parce que ça donne l'impression que ceux qui émettent des analyses critiques, même lorsque ces ouvrages sont réceptionnés, finalement, ça les fait passer pour des éternels critiques. Alors que je me dis, c'était aisé de voir qu'à l'inauguration de ce port de pêche, c'est vrai, c'était nouveau, mais si on compare à d'autres pays, c'est-à-dire qu'au Togo, on ne fait pas des ouvrages visionnaires. On fait des ouvrages juste pour aujourd'hui. Et on enchante ces ouvrages-là, et après quelques temps, mais ça devient désuet. On se rend compte qu'en réalité, c'était pas grand-chose. Donc, vraiment, c'est... Le jour où on va cesser de chanter les louanges juste à chaque inauguration, je pense que c'est de voir plus loin Je pense qu'il y aura beaucoup d'amélioration dans ces ouvrages. Merci.
Je vous en prie, Johannes. Je prie seulement de ne pas réduire la presse togolaise à l'intervention de quelques confrères. Le débat, il est pluriel. Le plateau, il est ouvert. Nous recevons le maximum de confrères pour que chacun nous enrichisse de son point de vue. Merci à vous quand même, ceux qui ont pu appeler aujourd'hui. Vous avez su aborder divers sujets, cela nous enrichit davantage. Eux, ils n'ont pas appelé, mais c'est le club de la presse qui pense à eux. Il s'agit de notre ami Francis Ketevi, qui travaille à Togo.com, qui a célébré son anniversaire courant cette semaine. Et en début de semaine également, c'est notre parent Kodjovi Godwin Boko. L'anniversaire de naissance n'est pas encore fini. Le club de la presse s'associe à votre joie et surtout à votre action de grâce pour vos anniversaires. Tour de table avec Germain Soranapouli, une minute, peut-être pour un dernier commentaire à sortir de ton carton de fin d'émission.
Un commentaire, donc je crois qu'on a parlé de la solidarité de la démocratie. La démocratie, c'est un combat perpétuel pour plus de liberté. Mais la démocratie seule aujourd'hui ne suffit pas. Il faut le développement. Et on voit ce à quoi on assiste aujourd'hui dans certains pays où on balaie des présidents qui sont élus, pas forcément mal élus, qui sont élus, et que les gens applaudissent. Donc ceux qui applaudissent, c'est parce qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils ont d'autres problèmes, c'est pas la liberté qui les intéresse, la prospérité. Donc il faut travailler pour que les deux aillent de pair. La liberté, la promotion de la liberté, le développement, donc la lutte contre la pauvreté. Et là, je salue un peu toutes ces structures-là qui se battent au sein du gouvernement, mais également dans le privé. Les ONG, les personnalités, on a vu en ce moment de rentrée scolaire, il y a eu plusieurs bonnes volontés qui se sont manifestées à travers le territoire, qui pour apporter quelques cahiers, qui pour contribuer à la réhabilitation des bâtiments scolaires et tout ça, en dehors même de la sphère politique, des gens qui ont envie d'être politiciens. Donc un carton vert
à tous. Merci. Juste rappeler que toutes les bonnes volontés qui voudront aider pour les fournitures, c'est la semaine prochaine qui est appropriée. Faites le maximum de dons pour que le 25, chaque élève puisse avoir son trousseau, son cahier et rentrer en classe. Godson Ketomanyan.
Merci Sas. Je ne serai pas long. Juste pour inviter le ministre de l'Éducation à dépoussiérer le rapport BIPI auquel on a fait allusion, voilà, qui a été produit en 1995. Et que des discussions tournent autour. Parce que autrement, autant on se dira en démocratie, autant à chaque rentrée scolaire, il y aura des grincements dedans. Et si on y prend garde, je ne veux pas prédire quelque chose de sombre, mais ce ne serait pas bien pour l'éducation. Parce que autrement, beaucoup d'enfants seraient peut-être obligés d'abandonner les bancs. Et s'il est un carton que je veux décerner, souvent c'est le rouge que je décerne, mais quand c'est envers notre président, je ne peux pas oser décerner le rouge. Je ne suis pas courageux. Point.
Okay.
Donc, à mon cher président, je décerne le carton jaune. Parce que par rapport aux 20 plus qu'il nous avait promis, et que moi, j'espère toujours, ces 20 plus-là, il suffit de vous y référer. Il y avait beaucoup d'engagements qui, s'ils étaient respectés, je doute que l'opposition ait encore pignon sur rue. Mais parce que nous sommes champions des promesses non tenues, ce n'est pas bon pour mon pays.
Donc tu rappelles au chef de l'État, son programme, mon président, que...
Il a fait des promesses. Qui s'y attelle? Parce que par rapport aux augmentations du budget de la présidence, c'est anormal.
Il semble qu'une promesse devient une dette.
Plus qu'une dette.
Ok, merci beaucoup. Francesco.
Là, peut-être au document de BIPI, il faut associer les réformes, je crois, de 75, élaborées par
ça c'est vraiment vieux, hein.
Abetiafa, les Nambouyao.
C'est pas trop vieux là, la réforme de 75.
Comment il s'appelle l'autre commissaire, Malou et autres qui ont fait un excellent travail. Non, hier encore, il y a beaucoup de choses se font aujourd'hui. Et si vous visitez, c'est pas la limitation, par exemple, des enfants par classe, c'est depuis le temps de Malou. Quand vous prenez même les primes de kilométrage, les primes accordées d'éloignement, ça existait déjà dans les tests, mais c'est pas encore mis en œuvre, c'est ce que nous disons. Cette semaine, nous avons tenu à faire un rappel, quelques communiqués par rapport à certaines personnes qui usurpent Tampa Express pour signer certains articles. Donc nous avons fait des précisions. Nos articles sont publiés d'abord dans le journal papier et après routés sur le site. Donc pour la prochaine parution, il n'y aura que le PDF sur le site, parce que nous sommes en train de faire des réformes pour que les gens ne prennent pas la totalité, l'entièreté de nos articles. Donc pour le prendre, il y a des dispositions
pour sécuriser votre patrimoine.
Votre patrimoine, c'est très
merci
important.
À
pour
vous.
Le carton, oui, carton oui. Je voudrais vraiment décerner un carton de vert. Hein, et puis, félicitations à Madame Germain Pouli, parce que vous l'avez vu.
Madame
Germain Pouli.
Ah oui.
Oui.
Parce que,
oui.
Voilà, parce que vous avez vu la tête a changé.
Oui.
Semble-t-il qu'il s'est couché la nuit.
À son réveil, il n'a plus retrouvé son dread.
Pour dire que madame a toiletté Germain Pouli.
Bravo, madame Germain Pouli.
C'est une fausse information.
On commence pas.
C'est de la diffamation.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end. Nous nous retrouvons lundi prochain à 11h.